Voie Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 janvier 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, manifestation aujourd'hui à Bamako pour contrecarrer les pressions à l'appel de la jeune malienne. Guinée et la justice ordonnent d'enquêter sur les crimes sous l'ex-président Alpha Condé. Plainte contre le gouvernement au Congo-Brazzaville pour la mort de 6 jeunes au mois de novembre. Ici aux États-Unis, la Cour suprême a bloqué jeudi la décision du président américain Joe Biden d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés. CAN 2021 au Cameroun, Emmanuel Julentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. Pas de vainqueur dans le derby de l'Afrique de l'Ouest dans la poule B entre le Sénégal et la Guinée-Conakry ce vendredi à Bafoussam. Les Lions de la Teranga, favoris de la CAN, ne parviennent pas encore à imposer leur marque. Le journal de la CAN à Yaoundé avec Emmanuel Julentap.
Bonsoir. Le Sénégal et la Guinée-Conakry se neutralisent à Bafoussam dans la poule B. Le match comptait pour la deuxième journée. Match suivi pour nous par Amédine Sy.
Le Sénégal a été tenu en échec par la Guinée. Il faut dire que les Lions de la Teranga et les joueurs du national devront encore patienter pour assurer leur qualification. Il faut dire que ce derby ouest africain n'a pas répondu aux attentes du public. La faute à une équipe nationale du Sénégal décimée, hein, puisque Aloujit n'a pas pu compter sur ses cadres comme Mendy, comme Kalidou Koulibaly, comme Ghana. C'est pourquoi le Sénégal a présenté une nouvelle fois une équipe bis qui a manqué d'efficacité. Il faut dire que les remplaçants du Sénégal sur qui Aloujit Conté n'ont pas fait quand même l'affaire. Ils ont été ballottés par moment par une équipe guinéenne bien conduite par Naby Keïta, mais les Guinéens n'ont pas su concrétiser leur domination. À la reprise, le Sénégal a rectifié le tir et les Sénégalais ont quand même dominé cette rencontre. Sadio Mané et ses partenaires n'ont pas pu concrétiser cette domination et à la fin, le match se solde par un match nul. 0 but partout, un nul qui n'arrache pas. C'est des équipes qui vont jouer leur qualification lors de la troisième et dernière journée. Amédine Sy, Bafoussam, VOA Afrique.
La suite de cette deuxième journée prévoit dans la poule C à Yaoundé une alléchante affiche entre le Gabon et le Ghana. Un match pour le rachat côté ghanéen. Les Black Stars avaient été défaits lors de leur première sortie par le Maroc, 0 but contre 1. Tandis que les Panthères du Gabon avaient pris le dessus sur la sélection nationale des îles Comores, 1-0. Le contexte sanitaire continue d'impacter le déroulement de la compétition. 6 cas de coronavirus ont été déclarés dans l'équipe nationale tunisienne d'après un communiqué rendu public ce jour par la Fédération tunisienne de football. Les tests ont révélé que Naïm Al-Saliti, Johan Tosgar, Osama Al-Hadadi, Mohamed Draguer et Dylan Brandt ont été infectés par le coronavirus. Ils ont été isolés du groupe, souligne le communiqué. Toujours en rapport avec la Tunisie, la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a décidé hier soir de l'homologation du résultat final du match ayant opposé la Tunisie au Mali. Match remporté 1-0 par les Aigles du Mali. La Tunisie avait introduit une réserve suite à la non-prise en compte du temps additionnel par l'arbitre central. La commission d'organisation a rejeté la dite réserve. Sur le terrain, à rappel, le pays hôte a obtenu hier son ticket pour les huitièmes de finale suite à une victoire écrasante face à l'Éthiopie, 4-1. L'attaquant Aboubakar Vincent, auteur d'un second doublé en deux matchs, est premier au classement des buteurs. Pour l'Éthiopie, les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale se sont considérablement amoindries. Avec cette deuxième défaite, le sélectionneur national Wetubu Agbaté pense que ses joueurs ont été pénalisés par un manque d'expérience.
It's all about the experience, I think, because if you something happen or if some problems.
Tout cela dépend de l'expérience, je pense, parce que pour certaines choses qui peuvent arriver sur le terrain, on a besoin d'avoir des joueurs expérimentés. Et quand vous regardez notre équipe, tous les joueurs évoluent au pays. Ils n'ont pas une grande expérience pour les grands tournois. Donc si peut-être nous continuons sur cette lancée et participons à ce genre de tournoi, et si nous avons certains joueurs qui jouent au haut niveau, peut-être nous allons évoluer à l'avenir, je pense.
Maybe we can improve for the future, I think.
Six rencontres sont prévues samedi et dimanche, Nigeria-Soudan, Gambie-Mali, Guinée-Bissau-Égypte, Tunisie-Mauritanie, Côte d'Ivoire-Sierra Leone et Algérie-Guinée-Équatoriale. Le journal de la CAN s'achève à Medine Si, Emmanuel Jeuntap, VOA Afrique.
Pour compléter ce journal de la CAN d'Emmanuel Jeuntap, après le Cameroun, le Maroc est le deuxième pays qualifié pour les huitièmes de finale. Les Lions de l'Atlas ont aligné leur deuxième victoire en phase de poule, 2-0 face à une vaillante équipe comorienne. Dans le second match du groupe D, le Malawi s'est imposé devant le Zimbabwe, 2-1. À présent, la suite du journal, les Maliens sont sortis massivement ce vendredi à Bamako et dans d'autres villes du pays à l'appel de la junte à manifester contre les sanctions ouest-africaines et les pressions internationales qui ne faiblissent pas. Le point avec Nani Talani.
À Bamako, des milliers de Maliens se sont massés sur la place de l'indépendance. Grosse affluence aussi sur la place Sankore et devant la mosquée à Tombouctou, dans les rues de Kadiolo, frontalière de la Côte d'Ivoire, et à Bougouni, dans le sud du pays. Les manifestants sont sortis pour soutenir les militaires et défendre leur patrie. Au même moment, le chef de la junte et président de transition, le colonel Assimi Goïta, a validé un plan de riposte aux sanctions ouest-africaines, disant aussi que le Mali reste ouvert au dialogue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit jeudi travailler avec la CEDEAO et l'Union africaine pour créer les conditions d'un retour de la junte à une position raisonnable, tout en réclamant du gouvernement malien un calendrier électoral acceptable. Il rappelle que la CEDEAO pourrait alors lever graduellement les sanctions.
Les militaires suédois quitteront cette année la force Takuba, qui regroupe des forces spéciales européennes au Sahel, à l'initiative de la France, a annoncé aujourd'hui la ministre suédoise des Affaires étrangères. Le Parlement suédois avait approuvé en 2020 le déploiement de 150 membres des forces spéciales dans le cadre de l'opération Takuba et de 250 soldats supplémentaires au sein de la MINUSMA. Takuba, qui rassemble à l'heure actuelle 14 pays, a vocation à prendre le relais de l'opération Barkhane au Sahel, dont le président français Emmanuel Macron a annoncé l'an dernier le désengagement progressif pour laisser la place à une coalition internationale. La justice guinéenne a ordonné l'ouverture d'investigations sur les crimes présumés commis sous l'ex-président Alpha Condé, renversé par un coup d'État en septembre 2021. Les précisions de John Lydon.
Je vous instruis d'engager sans délai ou faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction ou les juridictions compétentes autour des faits présumés commis pendant la période allant de 2010 à 2020 par des personnes qui restent à identifier, indique le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles White, dans un courrier adressé au procureur. La période mentionnée couvre celle pendant laquelle Alpha Condé a dirigé la Guinée avant d'être renversé par un coup d'État par le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir depuis président de transition. Le procureur général cite parmi les faits sur lesquels enquêter les meurtres, les disparitions forcées, les arrestations ou les enlèvements par des agents de l'État, les actes de torture et les atteintes aux libertés individuelles. Les enquêtes s'appuieront sur des appels à témoins, des auditions des victimes, des réquisitions judiciaires sans aucune forme d'opposition des secrets professionnels, souligne le procureur général.
En Éthiopie, au moins 108 civils ont été tués depuis janvier dans des frappes aériennes qui auraient été menées par les forces d'Addis Abeba dans la région du Tigré, a indiqué aujourd'hui l'ONU, évoquant de possibles crimes de guerre. Le Tigré est le théâtre depuis 14 mois d'un conflit armé entre gouvernement fédéral et anciennes autorités locales, issues du Front de libération du peuple du Tigré, qui a dirigé l'Éthiopie durant près de 30 ans, jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018. En RDC, Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, annonce sa démission de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'annonce survient au lendemain du saccage de sa résidence par des éléments de la garde présidentielle en représailles à l'arrestation de l'un des leurs par la garde de M. Kabound. D'autres officiels du parti affirment que rien n'est annoncé officiellement. En République du Congo, les familles de six jeunes retrouvés morts début novembre dans un commissariat de Brazzaville
ont porté plainte contre l'État pour obtenir réparation. Abdourahmane Dia.
La plainte a été déposée au tribunal de Brazzaville par 4 des 6 familles concernées. En se constituant partie civile, les familles et nous attendons que les responsabilités soient établies et que les réparations soient faites, a déclaré Trésor Zila de l'ONG Centre d'Action pour le Développement. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021, les corps sans vie de 6 jeunes ont été retrouvés dans les geôles du commandement territorial des forces de police de Brazzaville. L'autopsie réalisée par un médecin légiste sur 4 des 6 corps identifiés indiquait que des coups et blessures volontaires étaient à l'origine des décès. Le gouvernement, de son côté, évoquait des décès accidentels liés probablement à la surpopulation carcérale. L'ONG CAD dénonce une torture devenue endémique dans le pays. Début janvier, le procureur de la République, André Ngalata Oko, a ordonné l'arrestation de 4 policiers accusés d'avoir torturé 3 jeunes, dont 2 ayant trouvé la mort.
Le président de la Sierra Leone promet de modifier le système électoral et d'accroître la représentation des femmes en politique, entre autres réformes constitutionnelles prévues cette année. Le président Julius Madabio a déclaré jeudi, lors d'une cérémonie, que le pays passerait à un mode de scrutin proportionnel. Au moins 30% des candidats aux élections seront des femmes dans le cadre de la réforme. Parmi les autres changements proposés figure le droit à une indemnisation pour les personnes détenues illégalement. 6 détenus se sont évadés ce vendredi en Afrique du Sud d'un fourgon de police attaqué par un commando armé sur une route menant à un tribunal dans la banlieue de Johannesburg, a annoncé la police qui a lancé une chasse à l'homme. Parmi les 6 hommes évadés, 5 sont zimbabwéens, a dit la police. Ils devaient être présentés à la justice dans la matinée pour vol à main armée, tentative de meurtre et possession illégale d'armes à feu. Le 6e homme, un sud-africain, devait comparaître pour la première fois devant la justice pour vol à l'étalage. Les forces de sécurité ont dispersé Manu Militari ce vendredi à Tunis. Des manifestations organisées contre le président Kais Saied en dépit d'une interdiction des rassemblements pour des raisons sanitaires. La dispersion musclée des manifestations, qui marquait également le 11e anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali, a donné lieu à des scènes de violence rarement vues dans la capitale tunisienne depuis la révolte qui a renversé le dictateur en 2011 et donné le coup d'envoi des soulèvements du printemps arabe dans la région. Les opposants à M. Saied qualifient de coup d'État son accaparement des pouvoirs le 25 juillet lorsqu'il avait limogé le gouvernement et suspendu le Parlement pour gouverner par décret.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de COVID-19 a fait plus de 5,5 millions de décès dans le monde depuis fin décembre 2019. Le variant Omicron est aujourd'hui la principale cause de nouvelles contaminations. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie dans le monde avec Jenny Kapoubouvia.
La Cour suprême des États-Unis a stoppé jeudi la décision du président américain Joe Biden d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés. En revanche, l'obligation de vaccination est maintenue pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est excusé auprès de la reine Elisabeth II à la suite de révélations sur des fêtes organisées à Downing Street la veille des funérailles de son époux Philippe en plein confinement. Les passagers aériens en provenance de 153 pays ne pourront plus transiter par Hong Kong à partir de dimanche pour une durée d'un mois. 3 jours avant le début de l'Open d'Australie, le gouvernement australien a annulé vendredi pour la 2e fois le visa du numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic, entré dans le pays le 5 janvier sans être vacciné.
La Corée du Nord a tiré aujourd'hui au moins 2 missiles balistiques de sa côte ouest, le 3e essai en moins de 2 semaines, après avoir mis en garde contre une riposte forte à de récentes sanctions américaines. L'administration américaine a imposé mercredi des sanctions visant le programme d'armement de Pyongyang et ses fournisseurs après des tirs de missiles. Elle a également exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à lui emboîter le pas. Ukraine, la diplomatie au point mort après une semaine d'intenses discussions. Après ce balai diplomatique à Genève, Bruxelles et Vienne, les Russes exigent sans plus attendre une réponse à leurs revendications. Les États-Unis refusent de leur côté toutes les demandes russes sur l'OTAN, qui ramènerait de facto l'Europe aux équilibres géopolitiques de 1991 au moment de la chute de l'URSS. Et pour clore la semaine, l'Ukraine a été la cible ce vendredi d'une cyberattaque massive non revendiquée qui a bloqué une partie de ses sites internet gouvernementaux. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, plusieurs milliers de personnes sont sorties ce vendredi pour répondre à l'appel des autorités de la transition pour dire non aux sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. Notre correspondant Mohamed Danioko nous plonge dans l'ambiance de cette vaste mobilisation.
À partir de midi, plusieurs sous-tramas bondés font leur arrivée sur la place de l'indépendance à Bamako. Les manifestants brandissent des affiches de soutien aux autorités de la transition et d'autres hostiles à la CEDEAO. Ibrahim Keïta dit avoir tout laissé pour être présent pour témoigner son soutien aux autorités maliennes.
Il était temps pour les Maliens de sortir et de montrer leur mécontentement. La France et la CEDEAO sont là. Ça fait plus de 10 ans que le Mali est dans ce problème-là. Toujours un problème cyclique sans solution. Je pense que aucune autre personne ne fera ce Mali à notre place. Les autres sont venus pour nous aider. Mais l'aide première doit venir des Maliens.
Abondant dans le même sens, Moussa Traoré dit qu'il est venu pour non seulement dénoncer les sanctions des leaders ouest-africains, mais surtout apporter son soutien aux autorités de la transition qui, selon lui, font de leur mieux pour sortir le Mali de la crise.
Alors, je dis que c'est tout simplement illégal que la CEDEAO prenne ses sanctions contre le Mali. Parce que la CEDEAO ne doit pas prendre ses sanctions contre le Mali avant le 27 février. Hein, et ces sanctions n'existent dans aucun texte de la CEDEAO. C'est des sanctions qui sont illégales, illégitimes, et ça ne va pas empêcher le peuple malien de se tenir debout. Nous sommes unis devant ces sanctions et nous allons résister jusqu'à la fin.
Présidente d'une association féminine, Khadidia Kone, estime que la CEDEAO doit tenir compte de la situation du Mali et des souffrances du peuple malien pour réduire ses sanctions.
Tout ce que moi je demande à l'Afrique et l'organisation CEDEAO, c'est de voir réellement la situation du Mali. Comment les Maliens vivent aujourd'hui ? Vu l'insécurité grandissante sur toute l'étendue du territoire. Vraiment, la CEDEAO doit avoir pitié de notre Mali.
En plus de Bamako, des villes comme Kita, Bougouni, Tombouctou, les Maliens sont sortis en masse pour exprimer leur colère face aux sanctions et apporter soutien aux autorités de la transition. Mohamed Danioko, Bamako, pour VOA Afrique.
Au Sénégal, les camionneurs maliens subissent durement l'embargo de la CEDEAO contre le Mali. Les frontières des pays de la CEDEAO sont fermées avec le Mali. Les chauffeurs tournent en rond, mais restent déterminés à surmonter les difficultés pour que leur pays, le Mali, retrouve sa souveraineté. Notre correspondant à Dakar, Nama Diarra, est allé à leur rencontre.
Dans le quartier de Bel Air et le parking malien de Dakar, des centaines de camionneurs sont bloqués depuis l'annonce de l'embargo. Ces camionneurs qui faisaient le trajet Dakar-Bamako sont maintenant cloués sur place avec un énorme manque à gagner. Youssouf Sangaré, assis à l'ombre de son camion, garé depuis lundi dans le quartier de Bel Air à Dakar, est conscient des difficultés financières qui les touchent, mais soutient Modikis, la junte au pouvoir au Mali.
Partout où c'est garé, quoi, il n'y a pas de travail, mais nous sommes des Maliens. Nous soutenons toujours Assimi Goïta. Oui. Bon, c'est fatigant, mais on veut tenir ça, quoi.
Vos activités sont en arrêt à cause de l'embargo.
Oui, oui.
Et votre famille attend quelque chose de vous.
Eh bon, on ne sait jamais. Ça va finir un jour.
Par contre, Yacouba Traoré appelle à un dialogue entre le Mali et la CEDEAO pour trouver un consensus. Il est à Dakar depuis une semaine. Il attend et espère que son camion sera chargé pour emprunter la route Dakar-Bamako. Mais il ne peut plus partir à cause de l'embargo.
Ce que je demande à la CEDEAO, c'est de trouver une solution à la sortie de cette crise pour que l'ensemble, on puisse vivre ensemble, c'est-à-dire travailler ensemble sans difficulté. Parce que quand les camions ne roulent pas là, c'est très dur. Tu ne pourras plus gagner d'argent.
Avec cet embargo là aujourd'hui, comment vous mangez alors que vous ne gagnez pas?
On appelle le Mali, ceux qui nous chargent ici, on les appelle, ils nous donnent de l'argent. Après les chargements, ils vont enlever leur argent déjà.
Il a l'intention de charger son camion de produits de première nécessité vers le Mali.
Et bon, l'embargo là, il dit les produits de première nécessité, comme les riz et les médicaments. Il faut qu'ils cherchent ces marchandises pour partir.
Malgré toutes les difficultés, des routiers maliens sont déterminés à faire face à l'embargo de la CEDEAO. Djakaridia Konaté est très en colère contre les sanctions de la CEDEAO.
Le peuple malien, dans sa bravoure, est prêt à faire face à ce embargo. Nous sommes assis, nous ne gagnons absolument rien. Quand Martin Luther King se battait aux États-Unis pour les causes des Noirs, en ce moment, il ne gagne rien. Nous, aujourd'hui, on ne gagne rien. Mais tout compte faire, on aura le minimum pour survivre. Mais dire non à la France, dire non au néocolonialisme. Le Mali appartient aux Maliens. Le sous-sol malien appartient aux Maliens. Toute cette guerre d'embargo, ceci, cela, c'est pour le sous-sol malien. Donc on accepte de souffrir, mais on a besoin de notre indépendance.
À Dakar, des centaines de camionneurs maliens sont toujours sur place, mais se disent déterminés à faire face aux difficultés et affirment qu'ils resteront fidèles à la junte pour que le Mali retrouve sa souveraineté. Nama Diarra, Dakar, pour VOA Afrique.
Parlez de VOA Afrique à vos amis, actualités, musique, sport et plus encore. En 2 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
Les raz-de-marée et l'érosion côtière ont submergé toute une communauté de pêcheurs sur la côte est du Ghana. De nombreux villageois avaient déjà été relogés après les raz-de-marée passés et ont demandé au gouvernement une solution permanente. Un reportage de Senanou Tor du village de Fouvemé au Ghana. Le récit est de Jenny Kapoubou-Villa.
L'école primaire RC est en ruine après ce que les autorités ont déclaré en novembre être le plus grand raz de marée à avoir jamais frappé la côte est du Ghana. C'était le troisième déménagement de l'école, plus à l'intérieur des terres, après que deux écoles précédentes avaient été complètement submergées avec la communauté de pêcheurs du village de Fouvemé. Nolège Dewournou, un responsable de la communauté Fouvemé.
Donc ça a commencé en 1997 et ça n'a pas détruit toute la terre, ça a détruit une partie. Et en 2016, ça a également détruit une partie à nouveau. Et en 2018, ça a détruit tout le terrain de Fouvemé. Donc vous ne pouvez plus voir personne à Fouvemé maintenant. Ce sont donc les villages près de Fouvemé qui sont encore détruits par la mer.
Peu importe combien de fois les villageois s'éloignent du rivage, les inondations et l'érosion côtière l'ont tout de suite ramené. Le village de pêcheurs, autrefois prospère de 2500 personnes, a été réduit à quelques centaines de personnes qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Une étude de l'UNESCO indique que 37% des terres côtières orientales du Ghana ont été perdues à cause de l'érosion et des inondations entre 2005 et 2017. Écoutons Emmanuel Gemega, directeur général municipal de Keta.
Donc, en tant que président du MISEC, le conseil de sécurité de la municipalité, nous avons tenu une réunion et nous sommes sortis avec un ordre qui vise à interdire le ramassage du sable des plages jusqu'à nouvel ordre.
Les autorités accusent la montée des mers liées au changement climatique ainsi que les activités humaines telles que la construction de barrages et de ports et la récolte de sable sur les plages pour le vendre à des fins de construction. Seydi Sadji Amedonou, membre de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes.
Toute la côte du Ghana, d'Axim à Flao, cette protection doit être assurée. Parce que si nous protégeons un endroit en particulier et laissons les autres, la dévastation continuera.
Lors d'une réunion avec les autorités, les villageois de Fouvemé ont déclaré que l'interdiction n'était pas suffisante. Ils ont appelé à la construction d'un mur de défense contre la mer, comme cela a été fait sur d'autres zones de la côte. Alors que toute l'Afrique de l'Ouest côtière souffre de l'érosion, les experts ghanéens affirment que le long littoral de leur pays, près de 500 km, le rend plus vulnérable. Le centre de gestion côtière de l'université de Cap Coast affirme que chaque année, le Ghana perd en moyenne 2 mètres de terre dû à l'avancée de la mer.
Le président américain Joe Biden et les législateurs démocrates sont à la manœuvre pour tenter de modifier les règles du Sénat afin d'adopter une nouvelle législation sur le droit de vote, bloqué depuis des mois par les républicains. Mais la bataille se déroule d'abord au sein du Parti démocrate. Reportage de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, avec la voix d'Abdourahman Dia.
Une dernière offensive du président Joe Biden, qui s'est rendu au Capitole jeudi, plaidant une fois de plus pour l'adoption d'une proposition de loi importante sur le droit de vote.
Tant que je respire, tant que je suis à la Maison Blanche, tant que je suis engagé, je vais me battre.
Après des mois de tentatives infructueuses pour adopter la législation dans un Sénat également divisé, Biden a encouragé les démocrates à briser l'obstruction systématique, un changement majeur des règles, en contournant les républicains pour ouvrir la possibilité d'un débat. Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche.
C'est une chance historique de sauver notre démocratie et nous devons protéger la forme fondamentale du gouvernement américain. Et son point de vue est que cela devrait absolument être bipartite.
Mais la Maison-Blanche n'a pas réussi à convaincre la sénatrice Kyrsten Sinema, dont le vote est nécessaire pour changer les règles du Sénat.
L'élimination du seuil de 60 voix signifie que nous perdrons un outil essentiel dont nous avons besoin pour protéger notre démocratie des menaces dans les années à venir. Il est clair que le système des deux partis ne fonctionne pas, ni pour l'un ni pour l'autre, et surtout pas pour le pays.
L'argument de Kyrsten Sinema en faveur d'un compromis la place en compagnie des républicains qui soutiennent que la violation de ces règles du Sénat serait préjudiciable à la démocratie américaine. Pourtant, ils ont bloqué à plusieurs reprises toute tentative de débat sur le droit de vote. Mitch McConnell, chef de la minorité au Sénat.
President Biden, Senate Democrats.
Le président Biden et les démocrates du Sénat ont crié partout qu'un complot anti-vote pervers et raciste détruira la démocratie pour toujours, à moins qu'ils ne contrôlent seuls l'ensemble du gouvernement à partir de la semaine prochaine.
Mais les démocrates disent que cette législation arrive à un moment crucial pour les États-Unis car elle élargirait l'accès aux urnes pour les minorités, y compris les Afro-Américains, qui ont été confrontés à des décennies de discrimination et d'obstacles au vote. Mais les démocrates n'ont presque aucune chance d'adopter ces changements ce week-end.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Je t'aime jusqu'à la mort.